Les faucheurs volontaires emploient les moyens de la désobéissance civiquement violente en agissant à visage découvert.
La banderole de tête de cette manifestation, ça va être « Change le système, pas le climat ».
La vie est en chute libre dans tous les secteurs. La situation globale de la planète relève de l'extermination.
L'eau, la terre, l'eau, le jour du dépassement.
Bonjour, vous êtes sur CFM et vous écoutez Les Croissants des Croissants, un magazine d'écologie sans chichi.
La terre, l'eau, le jour du dépassement, la terre, moins deux.
Vous écoutez toujours Les Croissants des Croissants, un magazine d'écologie sans chichi. Comme d'habitude, vous pouvez envoyer vos avis, vos commentaires, vos suggestions à lescroissantsdescroissants@gmail.com. Aujourd'hui, nous allons parler de la décroissance. Alors, on entend souvent « les gens ne sont pas prêts à l'entendre ». Certains l'expérimentent pourtant déjà, certains le vivent déjà, et si on n'en parle pas, on ne risque pas de l'entendre. Donc aujourd'hui, nous allons parler décroissance. Alors, comment parler de la décroissance ? En fait, on va plutôt aujourd'hui parler de sa contraposée, la croissance. En ce qui concerne la décroissance, nous allons aborder le projet au travers des nombreuses émissions qui vont suivre, qui vont s'intéresser à l'énergie, l'organisation sociale, les métiers et les salaires dans un contexte de décroissance. Alors, la décroissance, comme je vous l'ai dit, nous allons la définir à partir de ce contraire, la croissance. Aujourd'hui, on entend souvent parler du PIB, du produit intérieur brut. C'est un indicateur unique qui permet de piloter l'économie. Chaque gouvernement essaye d'augmenter sans cesse le PIB. Alors, le PIB, comme je l'ai dit, c'est un indicateur unique. C'est comme si un pilote d'avion avait dans son avion un seul bouton pour monter, descendre, aller à droite, aller à gauche. On voit que piloter l'économie, qui est quand même un système complexe avec un seul bouton, c'est peut-être une aberration. Alors, d'où vient le PIB ? En 1932, c'est Simon Kuznets, un économiste russo-américain, qui crée la comptabilité nationale aux USA, c'est-à-dire qu'il va commencer à compter quelles sont les valeurs qui sont créées aux États-Unis. Et en 1934, il crée le PIB, le produit intérieur brut. L'objectif, c'est de mesurer les effets de mesures qui sont prises après la Grande Dépression. L'économie est quasiment à l'arrêt, il faut savoir si les mesures mises en œuvre ont un impact et éventuellement les ajuster. Il crée donc cet indicateur afin de savoir si l'économie est en reprise. Le PIB comptabilise les valeurs de production marchande et la production non marchande telles que les services. On va demander aux entreprises quelles valeurs ils ont créées et additionner tout cela. On parle de production non marchande telles que les services, enfin, on ne compte pas tout. Animer le club de football local ou autre est fait de manière bénévole. On s'aperçoit finalement que la vie sociale dans laquelle nous sommes est basée principalement sur la bonne volonté de chacun. Personne n'est payé pour animer la vie sociale. Il se trouve que d'autres personnes, pour faire exactement la même chose, vont être payées. Dans un cas, cela rentre dans le PIB. Dans l'autre cas, cela ne rentre pas dans le PIB. Alors, comme je vous le disais, le PIB a été créé initialement pour mesurer l'effet de mesures économiques, de mesures de reprise de l'économie. Aujourd'hui, il est toujours utilisé. Pourtant, 100 ans après, l'économie n'est pas en reprise. Le PIB mesure finalement l'excitation de l'économie. Plus le pouls est rapide, plus le PIB est important, plus l'économie est en croissance. Et c'est exactement comme mesurer le pouls d'un humain. Eh bien, quand il est trop rapide, qu'est-ce qui se passe? Je vous laisse imaginer. Il se trouve que le PIB et les énergies sont intimement liés. Si on trace l'augmentation du PIB et l'augmentation de la consommation d'énergie, eh bien on voit qu'ils sont linéairement liés, ils sont proportionnellement liés. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on utilise plus d'énergie, eh bien on transforme plus d'éléments et du coup, le PIB augmente. Aujourd'hui, l'économie est en quelque sorte une transformation, de transformation d'énergie en produits. Et ces produits, à la fin, finissent en déchets. Pourtant, tout à l'heure, on a vu que les services sont comptés dedans. Alors pourquoi les services, qui visiblement ne consomment pas d'énergie, feraient aussi augmenter le PIB alors que le PIB est lié à l'énergie ? Eh bien, c'est que tous les services, que ce soit le numérique ou autre, sont basées sur des éléments physiques. Si mon service consiste à vendre des billets d'avion, derrière, il y a des avions qui volent. Si mon service est de produire du numérique, eh bien, derrière, il y a des serveurs, il y a des éléments physiques qui fonctionnent, des transports, des équipements et autres. D'ailleurs, dans les rapports de RSE, de responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, on parle de mégawatt-heures par kilo-euro de valeur ajoutée. Alors, la croissance, ça fonctionne aussi parce qu'on s'endette. Si je m'endette aujourd'hui pour payer une maison, je compte sur le fait que les 10 euros que je dois rembourser valent 2 poules et qu'après-demain, les 10 euros que je dois rembourser valent que 1 poule. Donc finalement, les 10 euros que j'ai empruntés au départ deviennent d'une valeur de moins en moins grande et donc du coup pour moi coûtent de moins en moins. S'endetter aujourd'hui, c'est donc payer demain, mais avec plus d'éléments à disposition grâce à l'inflation et la croissance. Alors, la croissance, souvent, est présentée comme un moyen de réduire les inégalités. Est-ce vrai? Est-ce faux? Visiblement, c'est plutôt faux. Le projet du World Wealth and Income Database, une base de données sur le patrimoine et le revenu, eh bien, montre que depuis 40 ans, 1% des personnes les plus riches sur Terre ont profité deux fois plus de la croissance que 50% les plus pauvres. Ils ont capté à eux seuls 27% de la croissance. Il se trouve également que quand des États donnent des subventions, comme ça a été le cas durant le Covid, donc des milliers de milliards d'euros qui ont été mis à disposition, eh bien peu après, on retrouve ces aides dans la capitalisation boursière des grands groupes. Et pourtant, comme le mesure le WBID, en 40 ans, les revenus ont stagné ou baissé de manière globale sur la planète. Alors il y a un autre élément qui revient souvent, c'est le ruissellement. En fait, ça n'a jamais existé. Quand Bernard Arnault fait un don de 10 millions d'euros au Resto du Cœur, en fait, on ne compte pas tout ce qui ne va pas aux impôts pour payer nos écoles, pour payer nos hôpitaux, pour payer nos services sociaux. Finalement, Bernard Arnault, qui se donne régulièrement le beau rôle en se montrant charitable, il ferait mieux de payer sa juste part d'impôts. Il est d'ailleurs épinglé dans de nombreux scandales comme les Paradise Papers en 2017 et la Cour des comptes a également montré comment Bernard Arnault et LVMH utilisent la fondation Louis Vuitton comme un outil d'optimisation fiscale qui leur permet d'économiser 518 millions d'euros d'impôts. Le laboratoire des inégalités a également montré que les pays riches n'ont jamais été aussi riches. Et pourtant, d'un autre côté, les populations les plus vulnérables, celles qui ont le moins participé au changement climatique et aux autres pollutions, vivent les répercussions de plein fouet. Alors revenons-en à l'économie. Qu'est-ce que c'est? C'est faire ensemble plus efficacement que si chacun faisait de son côté. Par exemple, le pain, si chacun doit fabriquer son four, mettre 10 bûches à l'intérieur pour cuire son pain, eh bien, il y a une personne qui va construire un four, qui va travailler le pain, que ce soit pour une personne ou pour 10 personnes, le temps ne change pas de manière significative. Et au lieu d'utiliser 10 bûches dans 10 fours, eh bien, il va utiliser peut-être 80 bûches. Et du coup, on fait une économie de 20 bûches. C'est ça l'économie. C'est être plus organisé pour finalement utiliser moins. Mais c'est aussi être plus organisé pour faire moins ou avoir plus de temps, être plus robuste aux aléas. Ce n'est pas du tout travailler plus pour gagner plus. L'économie, ce n'est pas produire plus. Produire plus, justement, c'est l'inverse exact de l'économie. Et finalement, je prends ma voiture, je vais travailler, je vais au supermarché pour acheter ce que j'aurais pu produire dans la journée. Est-ce vraiment cela de l'économie? Une économie de temps? Les bases de l'économie actuelle ont été posées à la fin du 19e siècle. À la fin du 19e siècle, eh bien, on a des moulins à vent, on a des bateaux à voile. Les ressources que l'on utilise sont relativement insignifiantes par rapport aux ressources disponibles. On peut donc considérer que les ressources sont illimitées. Aujourd'hui, notre système de production permet finalement d'atteindre ces limites. Il se trouve qu'un article dans Science vient juste d'être paru sur 9 limites planétaires identifiées. Il y a 7 limites planétaires qui ont été déjà dépassées. C'est-à-dire qu'on constate un emballement et un changement drastique sur le climat, sur la biodiversité, sur les ressources minières. Il y a également une autre ressource qui n'est pas identifiée dans ce rapport, c'est l'humain. L'humain a une certaine limite. On ne peut pas travailler plus qu'un certain temps. Donc, travailler toujours plus a une limite. Il existe donc des limites physiques, les limites planétaires, mais également des limites sur l'humain et sur sa santé physique et mentale. L'humain ne va pas pouvoir travailler plus et endurer des conditions de travail toujours plus drastiques, que ce soit sur le plan social ou sur le plan environnemental.
Je crois que nous n'avons pas tous ici bien compris que nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Ce sont nos valeurs et nos manières d'être qui mènent à ce que l'ONU nomme, je cite, « une situation de menace existentielle directe ». C'est qu'aujourd'hui, notre rapport au monde, notre être à l'espace, fait de l'éradication systématique du vivant une finalité. Tant que, par exemple, vous nommerez, vous autres chefs d'entreprise, croissance, le fait de raser un espace gorgé de vie pour le remplacer par une plateforme commerciale, fût-elle neutre en carbone, nous n'aurons pas commencé à réfléchir sérieusement.
C'était Aurélien Barraud à l'Université d'été du MEDEF en 2022. Alors, la croissance, finalement, repose sur la transformation de nos ressources. Et comme on vient de le voir, le postulat initial de l'économie actuelle indique qu'il n'y a pas de limite. On est en train d'avancer vers quelque chose qui a une limite, et de plus en plus vite. C'est un peu comme si, avec votre voiture, vous continuiez toujours à accélérer vers un mur. Le mur, ce sont les limites planétaires que l'on approche de plus en plus ou qui sont dépassées, qui font que les ressources que l'on extrait sont de plus en plus rares, voire inexistantes. Il y a finalement deux choix. Le premier, qui est prévu finalement dans le modèle de croissance, c'est la récession. C'est-à-dire que l'économie s'effondre de manière non organisée. On ne prévoit rien, l'économie se dégonfle de par elle-même, mais de manière non organisée. L'autre choix, c'est ce que certains appellent la décroissance. La décroissance est finalement un choix organisé de dégonfle de l'économie. On va donc faire entrer de nouveau l'économie dans les limites planétaires afin de pouvoir continuer à vivre sans le faire aux dépens des générations suivantes, tout en s'assurant que nos ressources soient toujours disponibles et renouvelées. Alors, on entend souvent « Oui, mais comment allons-nous faire? Il faut bien toujours avoir une voiture. » Alors, revenons-en justement sur la notion de prix. Quel est le vrai prix d'un objet? Quel est le vrai prix d'une voiture? En euros ou plutôt retranscrit en temps passé? Pour avoir une voiture, il faut déjà que je travaille. Il va également y avoir un certain temps passé pour m'indiquer quelle voiture je dois choisir. Ensuite, il y a le temps passé pour acheter l'essence, pour extraire l'essence, pour faire l'entretien, pour acheter l'entretien, pour acheter l'assurance, pour s'occuper de l'assurance, pour passer le permis, pour acheter le permis, pour être dans les embouteillages. Et n'oublions pas, pour construire les routes. Il se trouve que quand on additionne tout le temps passé pour assouvir ce besoin, eh bien le temps que mon objet voiture me fait gagner est nul. En fait, on retrouve ce paradoxe pour quasiment tous les objets du quotidien qui nous environnent. Sauf un principal, le vélo. Le vélo nous fait gagner du temps, car il est peu coûteux en ressources, il est peu coûteux monétairement et il nous fait gagner du temps. Quand on compte l'ensemble du temps passé pour faire rouler la voiture roule en moyenne à 16 km/h, alors qu'en vélo, je roule à 20 voire 30 km/h. Il y a également dans la notion de prix ce qu'on ne paye pas. Dans l'économie actuelle, on ne paye pas les ressources au départ. On ne paye pas la production de pétrole, le fait que le pétrole soit présent sous terre. On ne le paye pas. On ne paye pas le bois qui pousse. On ne paye pas l'herbe qui pousse. On ne paye pas les insectes pollinisateurs. On ne paye pas la nature, la biodiversité, et ainsi de suite. Finalement, on ne paye que la transformation et éventuellement la spéculation. Et cet ensemble se retrouve dans le PIB. Alors, la croissance, c'est le bonheur. Il faut augmenter l'économie pour être dans le bonheur. Si vous posez la question à vos proches de qu'est-ce qui finalement vous a rendu heureux? Quels sont les événements qui vous ont marqué? C'est certainement pas l'achat de la dernière voiture. Le plus souvent, on va vous répondre des choses sur l'humain, sur la nature. D'ailleurs, on peut remarquer que la publicité essaie justement de faire changer ses points de vue en rendant des objets enviables alors que l'humain intrinsèquement est intéressé par l'humain et la nature. Je vous propose de continuer en compagnie de
Iris.
Non mais on va s'en sortir. Un jour. Les chefs d'État, ils vont enfin se réveiller, ils vont reprendre leurs droits et ils vont foutre en cabane les banquiers et tous les traders, les Monsanto et les Bayer, les vendeurs de petites sœurs. Non mais on va s'en sortir, je te dis. Les puissants vont arrêter de nous aliéner, les médias de nous abrutir, la pagaille de nous empoisonner. Les riches, au lieu de s'offrir des yachts et d'acheter de la coque aux arabes qui sont dans leur cité pourrie, ils vont donner leur pognon aux SDF, aux orphelines, aux hôpitaux et aux écoles. on sera dans une nouvelle ère, sans aucune chasse aux sorcières, sans destruction de notre terre. Bordel, mais on va s'en sortir. On va arrêter de creuser des trous de plus en plus profonds. On se connaît pour des petits africains de 7 ans qui, au lieu d'aller à l'école et d'avoir une petite chance de se sortir de leurs conditions pourries, non, ils sont payés 1 euro la journée pour plonger là-dedans et aller chercher des minerais hyper rares. Tout ça pour que tu puisses avoir le tout dernier iPhone. Et pas tout ce qu'on nous dit de consommer pour avoir l'air évolué. On fera des tonnes de plastique, des abris pour ceux qui en ont pas, des œuvres d'art dans tous les coins des rues, des bateaux pour nos frères qui fuient leur pays en guerre. Et si leur pays est en guerre, c'est aussi un peu grâce à nous qu'on leur fournit de quoi la faire. S'en sortir. Oui, moi aussi j'avoue j'ai un petit peu des doutes parfois quand je regarde ce qui se passe autour de moi. Et en même temps, si on baisse les bras et qu'on fait rien que gueuler comme des harengs derrière nos putains d'écrans, on laisse tous ces tarés continuer à diriger et à tout massacrer. Alors viens, on se bouge le cul, c'est bon pour les fessiers, la planète et l'humanité. Allez viens, on se bouge le cul.
On entend souvent parler de croissance verte, de transférer des fonds bruns vers des fonds verts. Mais qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est totalement illusoire. En quelque sorte, vous êtes BNP Paribas et vous avez des actions pour 10 millions d'euros chez Total Energy. Et vous voulez les transférer dans l'énergie verte. Alors, les possibilités sont les suivantes. Soit je trouve quelqu'un qui achète mes actions valorisées à 10 millions d'euros et ensuite je vais réinvestir ces 10 millions d'euros dans les entreprises locales qui produisent du bonheur à la population. Il n'y a donc aucun transfert de fonds. Total Energy a toujours le même capital. Soit je ne trouve pas de repreneur. L'État me rend flou et me permet ainsi de réinvestir dans l'entreprise. Soit on me propose 1 million d'euros pour mes 10 millions d'euros initiaux de capital. Je ne peux donc plus les réinvestir. Donc dans tous les cas, transférer des fonds bruns vers des fonds verts, c'est totalement illusoire, à moins d'accepter de décroître de manière volontaire l'activité des entreprises et de trouver un autre métier aux gens qui y travaillent. La décroissance, finalement, c'est s'organiser pour retrouver un état stable de croissance sur Terre. Ce que l'on va ponctionner en termes de ressources, eh bien la Terre va être capable de compenser. C'est une organisation finalement plus efficace. Un exemple, la voiture de demain n'est pas une voiture électrique, c'est une voiture électrique beaucoup plus petite, donc beaucoup plus performante, partagée. Un camion est mis en commun sur un village afin de réaliser les travaux qu'une voiture ne pourrait pas réaliser. La décroissance, c'est faire moins, c'est avoir plus de temps libre. À titre personnel, je n'aime pas trop le terme décroissance, je préfère le terme de post-croissance. En effet, la décroissance est un phénomène transitoire vers une situation stable. La décroissance est un problème spécifique aux pays riches. D'autres personnes aspirent à de la croissance car elles n'ont ni d'eau potable, ni d'électricité, ni accès à l'éducation. On peut donc s'attendre à ce que plus de la moitié de la population mondiale puisse croître tandis que d'autres vont décroître. Et on arrive donc dans un état de post-croissance. Je vous suggère la lecture d'un livre de Timothée Parry qui est édité aux éditions du Seuil, « Ralentir ou périr » qui traite parfaitement ce sujet. C'était Les Croissants Décroissants, un magazine d'écologie sans chichi. À la prochaine.
les faucheurs volontaires emploient les moyens de la désobéissance civique non violente en agissant à visage découvert.
La banderole de tête de cette manifestation, ça va être « Change le système, pas le climat ».
La vie est en chute libre dans tous les secteurs. La situation globale de la planète relève de l'extermination.
L'eau, la terre, l'eau, le jour du dépassement, la terre...